Radio Libertaire, ben voilà, on essaie de faire jonction. Ben Jacques, tu peux essayer. On va voir avec le montage micro, téléphone direct. Vas-y.
Comme d'habitude, eh bien, nous sommes perdus dans le fin fond de notre vieille hexagone, de notre vieille France, et nous vous saluons. Alors, tout à l'heure, j'évoquais, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais j'évoquais avec Gérard le fait que c'est aujourd'hui la grande conférence sociale dans laquelle on va essayer de resserrer encore un petit peu les chaînes qui entravent la liberté des travailleurs, la liberté des salariés, c'est-à-dire qu'on va exiger d'eux non seulement qu'ils acceptent des salaires plus réduits, qu'ils travaillent plus longtemps, qu'ils ne prennent leur retraite que le plus tard possible. Le principal sujet qui abordé, qui malheureusement est en même temps tout à fait accepté par les syndicats, par la bureaucratie syndicale. J'entendais encore hier soir une déléguée confédérale CFDT. C'était dire que ce syndicat est censé représenter des travailleurs, ils n'ont pas des cadres qu'on sache. Enfin, que le syndicat cadre, la CGC, prenne position pour les patrons, c'est presque naturel. Encore qu'il y a quand même maintenant des cadres qui n'acceptent pas cette espèce de soumission. Mais en tout cas, ce qui est tragique dans cette conférence qui se tient au palais d'Iéna, au palais où se réunissent les conseillers économiques et sociaux, hein, c'est-à-dire des personnages qui sont eux aussi entièrement entre les mains de l'État, entre les mains du gouvernement, eh bien cette conférence va simplement accentuer le poids de ce qui pèse sur les épaules des travailleurs quand ils ont un boulot. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas du tout se préoccuper de dire « Eh bien, on va donner un revenu d'existence » à ceux qui n'ont plus de travail parce que des actionnaires, que ce soit Michelin ou autres, veulent faire des affaires et délocalisent ou bien préfèrent en effet entasser des fortunes plutôt que de continuer à faire travailler des ouvriers en France. Eh bien, je pense que la première mesure que devraient demander les syndicats, avec prélèvement évidemment sur les fortunes, qu'elles soient offshore, qu'elles soient dans les paradis fiscaux ou ailleurs, c'est un revenu d'existence, c'est-à-dire que des gens ne doivent pas continuer à essayer de survivre avec moins de 1200, 1300, 1400, 1500 euros par mois. Hein. Or, malheureusement, le nombre de pauvres en France ne fait que grossir, et en même temps que le nombre de pauvres ne fait que grossir, le nombre de riches ne fait que s'amplifier et que leur richesse s'amplifie sans cesse. Alors, quand M. Hérault, dans le journal Le Monde, fait un discours en disant « Eh bien, voilà, nous avons maintenant un grand projet, c'est un temps fort pour la France », voilà ce qu'écrit Hérault dans Le Monde, daté du samedi 15 juin. Un article, retraite, un temps fort pour la France, deux principes, la continuité et la justice. Alors rien que quand tu regardes ces deux mots, la continuité et la justice, tu sens à quel point il y a une impossibilité. Parce que si la continuité, c'est de continuer à réduire de plus en plus les droits sociaux, les droits du travail, si la continuité, c'est de continuer la politique qui est menée malheureusement par les socialistes ou par les fascistes de l'UMP, eh bien, c'est effectivement une continuité qui ne peut être que l'injustice. Alors, si c'était la continuité des engagements qui avaient été pris au nom de la France, Mais là encore, comme dirait Badinter, c'est pas les droits de l'homme, c'est pas les droits du salarié qui sont défendus, c'est la déclaration des droits du salarié, mais surtout pas la transformation en réalité. Et il est certain que la justice sociale ne peut pas se satisfaire d'une continuité qui consiste à réduire de plus en plus les possibilités pour les gens qui travaillent ou qui malheureusement sont au chômage, de vivre et de vivre décemment. Hein. Donc la justice, c'est de, comme je le disais à l'instant, c'est de donner un revenu d'existence à tous ceux qui sont chassés de leur emploi par la volonté des actionnaires, de confisquer les biens, les patrimoines qui ont été volés aux salariés. Hein. Il ne faut pas l'oublier, ça. Je crois que quand on pense que les syndicats, aujourd'hui, ont complètement oublié ce qu'ils disaient à l'époque de l'anarcho-syndicalisme dans les années 1900, à savoir que la richesse, mais c'est pas le capital, vous allez poser votre lingot d'or sur une table, il va pas se transformer en 10 lingots d'or. Hein. Donc, c'est pas le capital qui produit de la richesse.
Jacques, oui. Juste ça, signifier, c'est bien pour ça qu'on les appelle des partenaires.
Télécom
dernièrement, malgré Monsieur Richard. Les plus réacs, les pires des pires.
Ouais. À aucun moment, depuis que la République existe, un chef d'État, un président de la République, n'a été faire...
Sarko l'a rêvé, Jacques, Sarko l'a rêvé et Hollande le fait.
Oui, hein? Oui, c'est ça. Oui. D'ailleurs, hier soir, j'entendais sur AFR3 une triste réunion, soi-disant, pour parler de la conférence sociale, où il y avait... trois autres personnages qui représentaient, en admettant que la CGT puisse avoir des positions originales. une déléguée CFDT, un patron des petites et moyennes entreprises et un patron du MEDEF. Et le patron du MEDEF expliquait que à la question « Est-ce que vous croyez que cette conférence sociale, elle a une utilité ou c'est simplement un coup d'épée dans l'eau ou bien quelque chose pour faire croire aux gens qu'on va en effet s'intéresser à leur sort, faire croire aux plus démunis qu'on va s'intéresser à leur sort ?» Eh bien, écoute bien, le mec du MEDEF, il disait « Mais Hollande, il est mieux que Sarkozy !» Parce que Sarkozy, quand il faisait des conférences ou des réunions sociales, il n'invitait pas tout le monde. Tandis que là, Hollande, c'est très bien parce qu'il invite non seulement les syndicats, les experts économiques, les actionnaires, les utilisateurs, les clients, etc. C'est une méthode que nous ne pouvons qu'approuver. Alors quand on sait que déjà depuis le début, M. Hollande avait téléphoné à Mme Parizeau pour lui dire « Eh bien, vous avez réussi une très belle opération en faisant ce fameux contrat de flexi-sécurité hein, », c'est-à-dire qu'on peut, foutre à la porte les gens sous prétexte que « Ah bah oui, il faut que le coût du travail soit réduit, il faut que le marché du travail soit effectivement, comme tous les autres marchés, soit soumis à la mondialisation, à la règle », eh bien, on ne peut que constater non seulement que...
On n'entend pas.
Comme disaient les communistes, il n'est qu'un social traître. Il est traître à la mission qu'il prétend défendre.
Quelle ligne ?
C'était la une.
Allô ? Ouais, là, ça marche plus, tu vois. Ça a été coupé, là. Ah ouais, c'est infernal, hein. Et la lune, t'as reçu sur la lune ?
Ouais.
Et là... Ouais, tu vois, elle est revenue, la lune. C'est pour ça que ça a fait... Tu vois, il y a un truc, ce qu'il y a, le copain, je sais pas s'il va rappeler. Enfin, je vais essayer. Voilà. Je vais essayer de lui dire. Donc, c'est infernal. Radio Libertaire... Eh bien, Jacques, peut-être la possibilité d'essayer de rappeler, et on va voir si on peut insérer la ligne 1 est revenue. Mathilde, essayez. Alors, on va quelques instants de musique en attendant sur l'antenne de Radio Libertaire. Thank you.
Libertaire.
Voilà.
Libertaire. Eh bien, vous êtes sur Radio Libertaire. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais nous avons eu quelques petits problèmes techniques et par conséquent, j'espère que vous avez quand même saisi un petit peu le sens de ce que j'ai voulu j'ai voulu essayer de développer en ce qui concerne cette fameuse conférence et en vous demandant effectivement de bien vouloir ne pas vous résigner à ne pas vous savez d'ailleurs que on a en ce moment un peu partout dans le monde et dans le Moyen-Orient en particulier des conflits qui sont d'origine à la fois nationaliste mais surtout religieuse, puisque même entre musulmans on s'entretue, hein, que ce soit les chiites, les sunnites, les alaouites, les alévis en Turquie, enfin bon, par définition, d'ailleurs on l'a rappelé la semaine dernière, la citation qu'on attribue au général Atatürk, comme quoi il peut y avoir, en effet, des généraux qui sont conscients, malheureusement, ils ont comme objectif de prendre le pouvoir à la place des religieux, mais ils n'ont pas pensé qu'on se débarrasse pas du sacré aussi facilement que cela. Ce général Atatürk qui disait que l'islam était une pourriture qui empoisonne nos vies et qu'elle avait été inventée et mise en place par un bédouin immoral. Alors, le bédouin immoral, je ne sais pas qui c'est peut-être Mahomet, mais en tout cas, voilà ce que c'est que la religion. Et ce qui est tragique, c'est que islam veut dire résignez-vous. Hein, résignez-vous. Alors, est-ce que nous allons, nous aussi, nous soumettre comme les 100 000 personnes qui sont venues courber les chines devant Monsieur Erdogan pour contrer les oui. quelques dizaines de milliers de jeunes ou de moins jeunes qui ont la conscience qu'il ne peut pas y avoir de liberté de pensée, de liberté d'expression à partir du moment où on reste enfermé dans un dogme, dans une doctrine et dans une soumission à un dieu ou à un prophète. Et par conséquent, effectivement, c'est à nous, parce qu'on voit bien que les officiels, que ce soit les bureaucrates syndicaux ou que ce soit évidemment le patronat et le gouvernement, ne feront rien, sinon même pire que ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, pour faire en sorte que un minimum de justice sociale fonctionne. Hein, tout à l'heure, j'évoquais l'idée qu'il ne s'agit pas de dire on va retarder l'âge de la retraite sous prétexte que les gens vivent plus longtemps, ce qui d'ailleurs risque d'être un phénomène très, très contesté, puisque maintenant, avec la malbouffe oui. notamment, oui. On ne dit plus aux gens bon appétit, mais bonne chance, oui. hein, c'est-à-dire essayer de survivre malgré ce que l'industrie agroalimentaire essaye de plus l'industrie chimique essaye de vous faire ingurgiter. Donc ça n'est pas en augmentant les cotisations des salariés, ça n'est pas en essayant de réduire le montant des retraites qu'il peut y avoir le moindre embryon oui. de justice sociale. Et ce qui est incroyable, c'est que maintenant, on s'attaque aussi au régime dit favorisé. Alors, les fonctionnaires sont sur la sellette, oui. les gens des services publics, de la Poste ou d'EDF, qui ont un régime ou de la Sécurité sociale, qui ont un régime particulier, quelquefois un peu plus favorable que le régime du privé, eh bien, on dit tout cela, ce sont des privilégiés. Hein, parce qu'au lieu de toucher un misérable 800 ou 900 euros par mois, ils vont en toucher 1200. Alors, ce sont effectivement des privilégiés pour des gens. Hein, c'est ça qui est surprenant de ne pas voir se soulever complètement l'immense majorité de...
Jacques, oui. Voilà, je voulais te dire aussi une chose qu'on a essayé de rappeler assez souvent, de tordre le cou, mais c'est vrai que c'est difficile puisque, on le répète assez souvent, c'est du matraquage partout. Les médias, évidemment, appartiennent aux voyous.
Bien sûr.
Les médias appartiennent aux capitalistes. Et donc, il n'y a pas un mec qui viendra sur un plateau télé pour dire les choses qu'on pourrait repréciser. Quand on fait le lien entre les actifs et les retraités, là aussi, c'est une escroquerie, c'est une arnaque, parce qu'on l'a déjà dit, s'il fallait payer des retraites par le nombre d'actifs qu'il y avait qui travaillent dans l'agriculture, quand on parle de 300, 400 000 personnes qui travaillent dans l'agriculture, on disait qu'au début du XXe siècle, c'est plus de la moitié de la population française qui travaillait dans l'agriculture. Et je dis ça par rapport à la productivité. On ne parle jamais, justement, de la productivité. Comment on substitue les technologies et les machines par rapport au nombre de personnes qu'on emploie. On l'a bien découvert, où il fallait 10 personnes dans un bureau il y a seulement une vingtaine d'années. Voilà. Alors, et pour faire la même chose. Donc ça n'est jamais expliqué. Et là encore, par rapport à...
Et pourtant, c'est quelque chose qui historiquement est vrai.
Ben oui.
Étant donné que les ouvriers du textile, les ouvriers jacquards en 1825, quand on a commencé à installer les machines, se sont dit, eh bien, sous prétexte de nous aider à faire avoir un travail moins pénible, on va nous foutre à la porte. Mmh. Et ils ont cassé les machines, parce qu'effectivement, ils ont bien compris que ça n'allait pas du tout servir à alléger la dureté du travail du salarié, même si effectivement ça a pu avoir un certain nombre de conséquences de ce type. L'objectif numéro un, c'était de foutre les gens dehors. Et par conséquent, ce qui aurait dû se faire déjà à l'époque, c'est de dire, à partir du moment où une entreprise utilise des machines, eh bien, si ces machines remplacent 10 personnes, elle doit cotiser pour 10 personnes, c'est-à-dire, au fond, faire en sorte que ce ne soit pas les actionnaires qui bénéficient de cet avantage considérable qui consiste à ne plus employer beaucoup de salariés, mais que ce soit l'ensemble de la collectivité d'abord, et surtout d'abord les salariés et les gens qui sont soit mis au chômage, soit complètement démunis de toute possibilité de se nourrir.
Oui, et pour la durée, c'est pareil, pour la durée de vie, où devrait plus ou moins, enfin, voire encore, faut mettre un bémol, hein, puisque là, l'explosion de nouvelles maladies, là aussi avec la merdonité, mais les gains de productivité et de richesse, on ne parle pas aussi de tout ce travail qui est des activités utiles, qui on rencontre dans la société, qu'on parle des gens qui sont à la retraite, qui ont des activités, et là aussi, qui prennent des places, mais simplement la place de qui, c'est pas exactement la place de qui, c'est comment ces richesses produites sont réparties. Et tout est là dans l'inégalité maximum de répartition des richesses. À qui ces richesses? Alors évidemment, si c'est le capital, si c'est les actionnaires, on leur demande pas de travailler, qui touchent évidemment les profits, on le sait bien, et l'augmentation de ces profits par rapport aux gains de productivité. Donc le calcul est neutre. Il n'y a pas. Et il n'y a pas ça, jamais, évidemment, ces idées-là sont évoquées.
Ah ben oui, elles sont complètement masquées, elles sont complètement gommées. Mmh. Pourtant, c'est quand même une évidence, mais vraiment quelque chose d'évident, qu'on ne peut pas produire la moindre richesse en partant du capital, même si c'est en effet un investissement, même si c'est quelque chose qui est utile, qui est utilisé, si c'est du matériel, si c'est un bâtiment, si c'est... Bon, on ne peut effectivement dégager de la richesse, malheureusement on appelle ça du profit, que s'il y a des bras ou des têtes pour faire marcher la machine, hein, pour faire marcher l'entreprise, pour faire marcher le service. Et cette idée-là qui consiste à dire, mais au fond, peut-être... Alors, il y a... Si, il y a quand même M. Rocard qui, brusquement, dans un article qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui dit, mais peut-être qu'il faudrait mieux répartir. Hein, voilà. Alors, on ne dit pas que, finalement, c'est les salariés qui devraient répartir la richesse, mais on dit que c'est les actionnaires qui devraient quand même faire un petit effort pour que les salariés ne soient pas aussi privés. Mais en réalité, tant que la décision sera entre les mains des capitalistes, des bourgeois, il est certain qu'ils n'ont aucun intérêt à renverser la vapeur, c'est-à-dire à dire, ah ben nous, on n'aura que ce que les salariés qui produisent la richesse considéreront comme utile, soit pour remplacer les machines, soit pour, en effet, garantir la retraite de l'ensemble des gens qui travaillent. Et donc, ce qui est surprenant, c'est que, enfin, pas surprenant, mais ce qui est triste, c'est que quand tu lis les éditoriaux du Monde, c'est pas seulement, comme on l'a dit la semaine dernière, la nouvelle Gazette militaire, le pouce au crime en Syrie, tu as vu ça, oui. que maintenant, ils ont, c'est même dans le Canard enchaîné, que la CIA a trouvé le moyen de ne distribuer des armes qu'aux rebelles modérés.
Comme le chiite modéré iranien.
Oui, c'est ça. Alors effectivement, ce phénomène-là, on peut dire que il est tout à fait surprenant que il n'y ait jamais un éditorial.
Ah oui, mais voilà.
En réalité, il y en a un qui dit Monsieur Hérault, faudrait peut-être pas prendre des demi-mesures. Ah, Monsieur Hérault, ayez un petit peu de volonté, Monsieur, et qui répète le discours du MEDEF en disant, mais il faut quand même que le marché du travail s'intègre dans la mondialisation. Et c'est de la même façon, quand on parle de mondialisation, quand on dit que l'Europe, la France a tapé sur la table pour que le cinéma français puisse bénéficier de ce qu'ils appellent une exception culturelle, je vois d'ailleurs pas beaucoup ce que c'est-à-dire peut-être que on pourra éviter d'être inondé par des films étrangers, ce qui me paraît d'ailleurs peu vraisemblable, parce que je suis pas tellement l'actualité du cinéma, de la production du cinéma, mais il me semble qu'il y a quand même beaucoup de films américains.
C'est l'exception culturelle états-unienne, surtout, qu'il ne faut pas mettre de côté.
Et c'est vrai que quand tu vois que la Commission européenne, alors tu as des grands discours, a dit, il faut quand même que les États-Unis nous donnent des explications sur ce cyberespace et cet espionnage mondialisé qui va toucher la vie privée de l'ensemble des Européens. La Commission européenne tape du poing sur la table pour dire, Monsieur Obama, expliquez-nous un petit peu ce que vous entendez par espionnage de la vie privée.
Tout ceci est
grotesque absolu.
Oui, je vais dire aux auditeurs, enfin, c'est repéré, parce que tu l'as peut-être pas vu, le monde de ce jour,
Non, figure-toi que je l'ai pas reçu.
Je l'ai observé de loin dans un kiosque, pour te dire. Et on évoquait, pour une première, avec son voyage in Berlin, on parlait d'Obama-Bush. Hein. Ils ont fait ce jeu de mots. Obama-Bush, Obama-Bush. Hein, que là aussi, la méfiance, c'est plus la cote. Il n'a pas la cote, hein, l'Obama.
C'est nous quand on dit Sarkolande.
Oui, Sarkolande, tu vois, il y a ça. Alors nous, et Obama-Bush. Et je vais te dire, alors avec les jeux de mots, hein, Obama, Obamu, Obabush ou Babush, ce que ça pourrait faire. Et pour plus sérieusement, il a été quand même obligé de faire son petit discours « I am Berliner », il ne l'a pas dit. Hein. Après, ils essaient de comparer évidemment à JFK, Kennedy, quand il était venu à Berlin. Eh bien, par rapport à ça, il a fait sa déclaration derrière une vitre
en verre dans un aquarium de protection.
De peur d'être...
Exactement, la nouveauté, tu vois comment il se déplace maintenant. Hein, il y a la papa mobile sous cage de verre, le François, là, alors qu'il a l'accès direct au paradis. Et là, l'eau babouche, hein, comme dit, c'est pas nous, hein, Jacques, je te dis, c'est le quotidien, c'est le monde de révérence, de référence, qui n'est pas révérent, pour une fois. Et la première page, eh bien, voilà ce qu'ils disent. Alors, je voulais te dire aussi, parler peut-être, c'est trouver ça intéressant pour une fois. Alors, tu sais, c'est les politologues, les profs. Je voulais parler tout à l'heure, je te dirais, par rapport à la mort de Maurice Nadeau, dire un petit mot par rapport à Maurice Nadeau qui est mort à 102 ans, rappeler un peu son itinéraire avec les surréalistes. Alors, sa violente...
Et puis, avec Albert Camus aussi.
Oui. Oui, oui, alors on va en parler si tu veux, et puis sa violente contestation de la bourgeoisie, j'en dirai quelques mots. Et là, je voulais te dire, après...
Il y a une page entière d'ailleurs,
oui,
dans Le Monde,
exactement,
consacrée à
Maurice Nadeau, si tu veux, on en parle un petit peu. Et là, je voulais te dire, alors c'était Laurent Bouvet, il est prof à Sciences Po, alors on dit toujours la même chose, Université de Versailles-Saint-Quentin, politologue, qui revenait, il revient lui sur un constat quand même après Villeneuve, donc sur l'autre, ce qui s'est passé, et il dit la coupure très nette entre les élites, alors les pseudo-élites hein, dont on parle quelquefois, et le peuple et la population. Et il remarquait un fort taux d'abstention, comme j'ai dit au début, hein, c'est plus qu'une abstention, c'est un boycott, un refus d'aller voter.
Oui, il y avait plus de 50%.
Voilà. D'abstention. Mais aussi, cette rupture de plus en plus entre cette élite qui s'auto-reproduit, il dit ça dans son article, hein, et qui n'est plus représentative de la population. Je préfère ce mot-là au mot peuple, évidemment, parce que tu sais qu'il l'emploie à toutes les sauces, sans savoir lequel ça peut être. Évidemment, on pourrait en parler, rejet de l'ensemble des partis, et je voulais te dire par rapport à ça, que si tu as vu que pour Villeneuve-sur-Lot, ça nous intéresse un petit peu, puisque on passe souvent le parti d'en rire. Et le parti d'en rire avait une représentante là-bas qui s'occupe d'un justement une sorte de canard enchaîné local, hein, au-delà d'un canard enchaîné local qui s'appelle la Feuille, hein, par référence à Zodaxa. Et ils se sont présentés, mais justement par refus, évidemment, pour montrer que c'est le parti d'en rire, pour bien rire et de dire qu'il n'était pas question de choisir dimanche prochain entre la peste et le choléra. Eh bien, Monsieur Plenel, écoute bien, Monsieur Plenel, qui est passé sur un plateau télé, a dénoncé la Feuille en disant ils ont récolté 1000 voix. Ces 1000 voix auraient pu aller au Parti Socialiste, et il me semble, dixit M. Plenel, que la Feuille était un peu téléguidée par Cahuzac. Voilà ce qu'a dit M. Plenel, hein, puisque la bouche de Mediapart sur toutes les chaînes.
M'étonne pas. Ouais. Il est certain que c'est des journalistes fouille-merde, comme beaucoup de journalistes, malheureusement, les journalistes que critiquait Albert Camus, ils font découvrir des scandales, mais ceci étant, ils n'ont absolument aucune morale et aucune
aucun
respect.
C'était salopard de dénoncer les gens de la Feuille. Et vous pouvez, je dis aux auditeurs, aller voir sur le site Acrimed, analyse critique des médias, on en parle souvent, vous verrez un interview, ça, c'est de 95, hein, de, pas de 95, 2005, il y a 7-8 ans, et donc vous verrez un peu ce que disent ces animateurs et ces journalistes, hein, journalistes de ce journal, La Feuille, un mini canard enchaîné, et ils n'était pas du tout question dans le fait de revendiquer le parti d'en rire, de soutenir quoi que ce soit ou de faire plaisir à Cahuzac, puisqu'ils l'ont toujours dégommé. Et donc, c'est une scélératesse qui est glissée comme ça en disant ça va être aux gens qui ont voté pour le parti d'en rire qui ont encore fait le jeu du Front National.
Oui. Ouais,
voilà. Alors,
oui,
quand même,
si tu veux, ça, c'est le discours électoraliste, c'est le discours conventionnel, c'est le discours des élites, c'est-à-dire ne jamais remettre en cause le principe même de la souveraineté du peuple, ne jamais remettre en cause la délégation de pouvoir, ne jamais être capable de rappeler, comme le faisait Bourdieu, que aller voter, aller distribuer son pouvoir, c'était du fétichisme, c'était comme aller dans une église ou dans une mosquée. Et donc, effectivement, des gens comme Plenel, ils sont, surtout quand ils sont invités par les médias, ils sont complètement dans le cadre de du système actuel, hein. Ils ont beau, effectivement, s'amuser à dénoncer les tel ou tel excès particulier, il n'y a jamais une conclusion générale, hein. Et tout à l'heure, tu rappelais la culpabilité des électeurs, hein, comme Libertad, qui avait en effet fait un texte assez féroce,
oui,
sur l'électeur qui est un criminel.
Très lucide, hein, très lucide, et surtout.
Et donc, oui, effectivement, quand on voit que l'ensemble, en quelque sorte, de la classe politique est entièrement organisé en bande, hein, puisque,
ah oui,
c'est des escrocs en bande organisée.
En bande organisée, hein. C'est pas nous qui le disons, hein. Là encore une fois, c'est leur justice.
Et c'est pas nous.
C'est leur justice bourgeoise.
Et quand on voit qu'un chef de bande comme Hollande, de bande organisée, considère que la mise en examen de Stéphane Richard, qui a complètement été impliqué dans cette espèce de faux arbitrage,
ah oui,
qui a permis à Tapie de gagner 400 millions. Quand on voit que Hollande dit « Ah, mais c'est quand même un très bon patron, donc il faut surtout pas y toucher, gardons-le,
oui,
hein,
oui. »
Ça veut dire « Gardons tous les salauds, gardons tous les... Ils font partie de notre bande,
oui,
donc on va pas quand même...
Même,
voilà, si,
voilà,
même si la justice, oui, les poursuit, bon, ben, on va pas les accabler. »
Cette bande organisée est nombreuse. Alors, je voulais te dire, on évoquait la mort de Maurice Nadeau, hein, quelquefois. Alors, rappelez aux auditeurs, vous pouvez aller avec les livres, avec les revues, hein, donc résister, donc aller. Attends.
Mais, ah oui, j'entends aussi la police qui vient de voir. Non, ils n'ont pas frappé à la porte du studio.
Jacques.
Oui.
Oui, allez résister. Non, mais c'est donc ce matin, mais c'est du direct. Et alors, voilà. Il y a différentes choses qui se passent. Enfin, ça va, voilà. Parce que la porte était ouverte et
ah,
le,
oui,
studio et le,
oui,
le
oui. Donc, mais pour moment. En revenir à Maurice.
Alors,
Nadeau.
Maurice Nadeau, voilà. Parle un petit. Justement, je voulais le signaler. Alors, Le Monde, là aussi, d'origine. Alors, c'est pas pour ça, mais d'origine modeste, hein, par rapport à ses parents qui viennent s'installer à Paris. Et j'avais repéré pour Maurice Nadeau. Alors, toutes les péripéties, tu sais, le découvreur, hein, surtout,
l'auteur
merveilleux.
C'est ça son génie.
Alors donc d'aller, je voulais dire, aller évidemment, les librairies font de la résistance, en particulier aller rue 145 rue Amelot, la librairie du Monde Libertaire, la librairie de Radio Libertaire, donc aller voir là-bas. Alors c'est fermé le lundi, mais tous les autres jours de la semaine c'est ouvert à partir de 14h30 et le samedi à partir de 10h30, où vous pourrez trouver évidemment des livres, beaucoup de livres, et comme on dit, sur l'anarchie, mais aussi d'autres livres, et je pense que il y en a quelques-uns cités par Maurice Nadeau, puisqu'il parle de Thomas Bernard, hein,
qu'on
recommande, Georges Perec. Alors Georges Perec, La vie mode d'emploi, donc c'est un titre d'actualité, allez relire La vie mode d'emploi. Henri Miller, hein, on le cite souvent.
Oui, enfin, oui, et il s'est toujours, il n'a jamais été conformiste, parce qu'Henri Miller, il était considéré comme un romancier mal élevé, parce que ses romans avaient un côté érotique. Mmh. Et ben lui a toujours défendu Henri Miller et le Tropique du Cancer ou le Tropique du Capricorne, de la même façon qu'il a
défendu... Et le cauchemar climatisé, Jacques, hein, l'ouvrage d'Henri Miller.
De la même façon, et ça c'est très important, qu'il a défendu Céline.
Exactement.
Au moment où il était attaqué.
Dans Combat, parce qu'il a été... Alors là aussi, rappeler quelques auteurs, eh ben, pour auteur qui vibre, je pense, à l'oreille des anarchistes, eh bien, il y a Louis Guillou aussi.
il faut le rappeler. Hein, donc
le
là,
sang,
là, là aussi,
noir.
Là aussi pour Maurice Nadeau. Alors je crois qu'on pouvait le faire aussi. Évidemment citer d'autres, Michel Léris, hein, là quelques et Malcolm McLaury, je voulais dire, et Bataille, Maurice Bataille. Donc Roland Barthes, hein, là aussi, même si par rapport à tout le langage, le travail qui a été fait. Alors, ce qui est remarquable, moi je suis, alors là-dessus, je ne sais pas si tu es peut-être en désaccord, mais je parle d'un auteur qui s'appelle Michel Houellebecq, et moi je suis assez favorable, je recommande aux auditeurs d'aller lire La carte et le territoire, et en particulier En poche, extension dans le domaine de la lutte, et qui nous invite, Michel Houellebecq, maintenant, Jacques, je vais te le dire, à relire Tocqueville, parce que sur la démocratie en Amérique, Tocqueville, quand même, il faudrait aussi leur reconseiller aux auditeurs de le lire, parce que ce n'est pas forcément un livre qu'ils pourront trouver à Publico, mais qu'il dit des choses sur le devenir, et à l'époque de Tocqueville, de la démocratie telle qu'elle est devenue, autoritaire, hein, bon, on le sait, un régime un peu totalitaire, donc les prémices qui étaient exprimées par Tocqueville sur ses dérives, ce qu'est devenu, justement...
Moi, j'ai jamais lu. Mais je pense en effet qu'il avait suffisamment d'intelligence pour ne pas tomber dans l'apologie immédiate d'un système qui se mettait en place.
Exactement. Alors ça aussi, très, très intéressant. Alors je voulais te dire aussi, Nadeau, j'avais repéré ça. Il refusait, si tu veux, à un moment, le métier. Alors comme on dit, les métiers, les professions. Alors il avait souligné le côté, on le rappelle, anti-bourgeois de Flaubert, mais au lance-flamme, quand même, il avait dit « Je refuse d'être professeur parce que c'est un métier bourgeois. Hein » T'entends, Jacques? Voilà. Alors ça aussi, donc là, se méfiant de ce que ça voulait dire, et si il refuse, d'être professeur considéré comme un métier bourgeois, et il a été aussi instituteur. Alors c'est pour ça que je voulais lui passer tout à l'heure.
C'était un caractère, parce que j'ai aussi lu que, autant il avait évidemment été très favorable au dadaïsme, au surréalisme, et dans un premier temps, il
avec
était
Breton,
assez pote avec André Breton.
Avec Breton,
eh bien, il a fini par se fâcher, ou du moins Breton s'est fâché avec lui, parce qu'il a dû trouver que Maurice Nadeau avait trop d'importance et risquait de faire de l'ombre
au
grand maître André Breton. Ça témoigne bien d'ailleurs du caractère de Breton.
Alors là aussi, on rappelle quand même la dénonciation de l'internement des Républicains espagnols, hein, de Nadeau, enfin ses engagements, et aussi le manifeste des 121 citant aux appelés à l'insoumission.
Pour la guerre d'Algérie.
Alors ça voilà le personnage, et là aussi de dire qu'il était en continuellement dans une activité. Il n'avait pas pris de retraite parce qu'il travaillait toujours, mais il avait un travail, il l'avait choisi. C'est toute la différence. Il avait choisi ce travail des livres, il avait choisi ce travail de découvreur, il avait choisi ce travail des idées. Évidemment, les idées, le développement des idées ne s'arrête pas avec l'âge de la retraite. Hein. Nous pouvons le souhaiter. Voilà pour Maurice Nadeau. Alors, rappeler la quinzaine littéraire, en fait. Et aussi, quand même, je voulais souligner...
Je ne sais pas si elle existe encore, la quinzaine.
Non, mais elle est paraît-il, c'est ça, sauvée. Il y a eu un dernier combat de Nadeau pour sauver la quinzaine littéraire. Et rappeler ça, qu'il avait publié Un coupable idéal de Roger Knobel-Peace, et rappeler avec Serge Kadrupani en 85, et Serge Kadrupani était venu dans cette émission, hein, on l'avait invité, rappeler que de relire ça, le coupable idéal, hein, puisque j'ai parlé tout à l'heure des 68 000 coupables, hein, qui sont incarcérés évidemment dans les prisons françaises, et quand on fait la sociologie de tous les prisonniers, eh bien on se rend compte justement à quoi sert la prison.
Il y a toute l'élite dont tu parlais qui devrait venir s'ajouter, donc je pense que les entreprises de BTP qui construiront des prisons auront du travail pour mettre en effet tous ces personnages, que ce soit les députés, les ministres,
les vider, il faut les vider de tous ceux.
les actionnaires, parce que justement, il y avait un projet à propos de la déclaration de patrimoine, hein, dont tu parlais tout à l'heure, où effectivement, on pourra peut-être se renseigner, mais il faudra surtout pas le dire aux, aux copains. Enfin, bon, c'est grotesque. Il y a des députés qui ont imaginé qu'il fallait sanctionner non seulement par de la prison ou des amendes ces fraudes qui sont le lot traditionnel de n'importe quel personnage qui vit dans notre société capitaliste et qui a du pouvoir. Eh bien, ils ont dit qu'il fallait une inéligibilité, une inéligibilité totale et définitive. Alors je crois que, puisqu'on parlait de bande organisée, d'escroquerie en bande organisée, de fraude, il paraît d'ailleurs même que Stéphane Richard, il avait déjà été condamné pour un faux, parce qu'il avait fait un faux, je
sais,
peu comme Alain Minc, qui a encore été
en
condamné.
En plusieurs, non, mais il avait été en particulier récompensé par la Légion du déshonneur, tu sais, par Sarkozy, qu'il avait fait, un artifice de revente d'une entreprise qui lui avait rapporté plusieurs dizaines de millions d'euros. Et Sarkozy avait dit, ce mec-là, il est balèze. Hein. Il fait des trucs comme Tapie, comme mon copain Tapie, qui on a fait après. Et donc, on va le récompenser et on va lui donner une médaille. Hein. C'est pour ça. Hein, bon.
Et donc, pour en revenir à Libertad et au fait qu'il faut absolument arriver à généraliser cette idée qu'il ne faut pas seulement s'abstenir, mais il faut se battre pour ne pas s'inscrire sur ces listes citoyennes, hein, pour ne pas être inféodé.
Se faire rayer. Jacques.
Il faudrait déclarer inéligible absolument tous ceux qui veulent être, en effet, députés ou sénateurs.
Cavana disait à un moment, tu sais, pour les systèmes de religion, de les malheureux enfants à qui on n'avait pas donné la possibilité de refuser le baptême, hein. C'est comme ça, ils étaient pris dans une famille, alors je ne sais pas, étaient bien hétérosexuels, et ils avaient été baptisés. Et donc, il disait, en cas de conflit religieux, qu'ils fassent gaffe, parce que si on retrouve leur nom sur les registres de baptême, ils pourront avoir des ennuis par rapport à un ennemi potentiel d'une autre boutique religieuse. Et donc, il invitait tous ceux qui étaient sur des registres de baptême à aller se faire radier. Alors donc, la même chose, la religion du bulletin de vote, tu sais, c'est ce que l'on dit, la religion de la République, eh bien, c'est pour ceux... Nous, c'est réglé. On n'a pas, évidemment, de carte d'électeur. Elle a disparu, on n'en a jamais eu. Ou on a fait autre chose. Et donc, de demander de se faire rayer. Hein, donc, c'est facile, hein, puisque des listes, justement, d'électeurs potentiels, hein, puis de dire, on veut plus participer à cette escroquerie, cette arnaque, et comme disait Libertad, à ce crime. Hein, qui compte, voilà. Alors, ça, c'est une chose. Alors, Jacques, peut-être autre info, puis je voudrais passer...
Moi je voulais parler aussi de... Tu sais, justement, puisqu'on parlait des journalistes, ceux qui ont encore un minimum d'honnêteté, et ils sont théoriquement protégés par le fait que on ne doit pas... Ils peuvent dire qu'ils refusent de donner leurs sources, et donc... notamment des journalistes du Monde avaient été accusés de ne pas vouloir indiquer quelles étaient les personnes qui leur avaient donné ces informations. Et donc il y a un projet de loi qui aurait dû protéger les journalistes pour justement éviter qu'ils soient pourchassés par la justice lorsque ils ont des sources qu'ils ne veulent pas fournir. Et donc, il y avait donc un projet qui était assez clair et qui vient d'être amendé par l'honorable héros et son équipe. Et donc, maintenant, le secret des sources sera en effet limité au fait que le sujet concerne des intérêts de la nation, eh bien, il faudra que le journaliste dise. Il n'y aura plus de secret des sources, c'est-à-dire, au fond, que finalement, au nom de la nation, au nom de la patrie, au nom de n'importe quelle idéologie, eh bien, on pourra exiger que finalement il dévoile ce qu'il a.
Alors, on va arrêter sur les sources. Alors, juste ça, oui, parce que j'ai quelques, tu vois, on est à 10 minutes.
Ah bah oui, vas-y. Hein.
Alors, je voulais juste dire, la bonne nouvelle, vous avez su quand même dans le sud-ouest, du côté de Lourdes.
Ah oui.
Là aussi où la grotte de la Marie, elle est noyée. Et donc, on a pris des dispositions pour que des pèlerins ne viennent pas à Lourdes en ce moment. Et moi, je recommande aux pèlerins d'aller à Lourdes. C'est le moment ou jamais d'en profiter. Et pour une fois qu'il pouvait y avoir un miracle, que des milliers de pèlerins auraient pu être noyés à Lourdes, eh bien, écoute, Jacques, ça sera remis peut-être à une prochaine date ultérieure, puisque le pèlerin, c'est comme l'électeur, c'est quelqu'un de criminel. Hein.
Oui, et puis au fond, c'est la volonté de Dieu et de Bernadette Soubirous. Donc, je pense que le fait de boire un peu d'eau de Lourdes, c'est quand même un peu comme boire le sang de Jésus-Christ. Ceci est mon corps, ceci est mon sang.
Donc, et alors, l'autre...
je crois que c'est une très bonne chose que cette invasion.
Oui, c'est... voilà.
c'est une purification. On peut se dire que de toute façon, toute religion mérite de temps en temps d'être purifiée.
Alors l'autre religion,
y compris la religion catholique.
L'autre religion aussi, la religion du sport. Ben on est content qu'au Brésil, hein, par rapport à la religion du sport, c'était les Jeux Olympiques et c'était le mondial de foot.
15 milliards.
Et là. Pour le ticket de bus, eh ben, ça a mis des centaines de milliers de gens dans la rue qui dénoncent le fric mis justement dans ces infrastructures, évidemment, de la religion du sport pour masquer tout le reste. Hein,
et quand on pense que là encore, les élites, c'est des trotskistes, c'est la bande à Lula.
C'est le parti des travailleurs. C'est le parti des travailleurs. Hein,
Oui, d'ailleurs... avant qu'il disparaisse, Lula, et qu'il cède sa place à une charmante trotskiste aussi, il y avait eu des scandales de corruption absolument innommables dans tout le secteur du pouvoir trotskiste brésilien.
Jacques, alors, écoute, je fais les deux annonces, là, hein, d'accord, et puis, alors, on verra ça, on se retrouve la semaine prochaine, enfin, il va y avoir des horaires d'été, eh bien, on demande, évidemment, aux auditeurs, à nos écouteurs, s'ils le souhaitent, hein, d'aller, ils peuvent aller aussi sur le blog de Chronique Hebdo, et puis aussi la possibilité de réécouter des émissions, et puis au gré des jours d'été, on verra ça, peut-être des émissions, peut-être arrêter, vous savez que Radio Libertaire un peu chamboule, comme on dit, son programme de l'été par rapport aux émissions en direct.
Voilà. Donc ça sera des émissions aléatoires.
Aléatoires,
Il n'y aura pas, un programme rigide, donc il faut une certaine souplesse.
Étoire, ce n'est pas une destination touristique, hein.
Voilà.
Donc, on vous dit... Alors, je fais les deux annonces. Eh bien, je parlais de le Forum Léo Ferré, hein, Jacques, je l'ai évoqué. Samedi et dimanche prochain.
Avec des tas de gens passionnants.
Donc, la liste, aussi, vous pouvez voir les informations. C'est 11 rue Barbès, à Ivry-sur-Seine. Et je dis, c'est retransmis donc en direct sur Radio Libertaire, c'est-à-dire samedi soir et dimanche. Alors, là aussi, et je vous parlais tout à l'heure... le colloque sur Art Brut et puis aussi la contre-culture. Ça se passera samedi et dimanche prochain, 22 et 23 juin. Maison des Cultures du Monde, 101 boulevard Raspail, Paris 6e. Et c'est un petit peu comment réfléchir à cet imaginaire, à ce cauchemar capitaliste qui bourre les cervelles. Et pour essayer justement de penser un petit peu à côté, de penser un petit peu autrement, de penser un petit peu hors norme. Et que l'Art Brut, en tout cas celui-là, peut-être aider ou mettre sur le chemin, puisqu'on parlait tout à l'heure de Gaston Coutet, eh bien mettre sur le chemin de la subversion, de la transformation, beaucoup de gens. Alors ça, c'est une vaste question.
En tout cas, c'est vrai qu'il y a une créativité, c'est-à-dire au fond, c'est des artistes, même si ce sont des...
Et pour nos amis, Jacques, on a parlé des professeurs tout à l'heure, je voulais rappeler que Philippe Pelletier, que les lecteurs du Monde Libertaire doivent connaître, et les auditeurs aussi, eh bien, participera à ce colloque et viendra parler en particulier de la situation au Japon. Alors, c'est très intéressant par rapport à ce qui s'est passé autour de l'art brut japonais. Hein,
et du nucléaire.
Et je pense du nucléaire. Donc voilà, faut dire pour Philippe Pétier, il y aura aussi Laurent Danchin, qu'on avait invité plusieurs fois dans cette émission. Alors, d'autres personnes, et là aussi, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site de la Halle Saint-Pierre. Voilà, c'est terminé pour Chronique Hebdo.
Salut.
Et puis, une petite chanson, eh bien, avec un auteur-compositeur qui sera justement au Forum Léo Ferré samedi prochain. Eh bien, c'est Gilbert Lafaille. Et
on se quitte. Ah, bah oui, alors Gilbert Lafaille, c'est dommage que tu n'aies pas mis les chemins de terre.
Non, ben pour la faille, c'est pas Gaston Coutet, Jacques. Gaston Coutet, mais c'est la vie, ça ne tient qu'à un fil. Alors surtout, on va se terminer pour un jeu de mots, on peut pas s'en empêcher, tu vas me dire Orange et Télécom, et ben là-bas pour le travail, hein, pour les suicides à Orange, et ben ça ne tient qu'à un fil. Donc on termine avec une chanson qui évoque avec un petit peu de distance cette chanson dont le titre ça ne tient qu'un fil, interprété, chanté, composé par Gilbert Lafaille. Chronique Hebdo, c'est terminé et on vous dit une date aléatoire et ultérieure. Salut.
Salut.